Chapitre 16. Si Madame Voisard cherchait les raisons qui pouvaient empêcher Marichette de vouloir se marier, Marichette, de son côté, se demandait pourquoi Madame Voisard paraissait si désireuse de lui trouver un mari. D'où venait ce subit intérêt chez une personne qu'elle ne connaissait pas? Pourquoi ces questions vagues? Pourquoi ces regards inquisiteurs? Interrompues le jour du dîner, ces questions avaient été bientôt reprises, car, selon sa promesse, Madame Voisard était venue chercher Marichette au bureau pour la promener, et pendant ces promenades, les interrogations avaient recommencé, de même qu'avaient recommencé aussi les propositions de mariage. Est-il raisonnable de refuser un mari qu'on ne connaît pas? Pourquoi ce refus? Répondre qu'on ne veut pas se marier, ce n'est pas une raison sérieuse. Toute jeune fille veut se marier, à moins qu'elle n'ait un amour ou des espérances dans le cœur. C'était bien ce qui l'a bouleversé, cet amour et ces espérances de son cœur. Madame Voisard soupçonnait-elle la vérité? Dans son inquiétude, elle avait consulté Paulin, mais bien entendu, sans lui parler du jeune homme charmant, doué de toutes les qualités. Paulin n'avait rien pu répondre. Il n'avait aucune imprudence à se reprocher. Madame Voisard, si elle avait des soupçons, ne pouvait les baser sur rien. Alors c'était de sa part simple curiosité, curiosité d'une femme intrigante. Paulin avait des développements à donner sur cette curiosité d'une femme intrigante. Mais comme il les garda pour lui, ne pouvant pas expliquer à cette jeune fille, honnête et innocente, ce qu'il savait sur le compte de la femme du médecin, Marichette ne fut pas beaucoup plus avancée après qu'elle ne l'était avant. Curiosité d'une femme intrigante, ce n'était ni pour l'éclairer, ni pour la rassurer. Mais ce qui l'étonna plus encore, ce fut que Madame de la Broquerie, qui maintenant lui parlait à l'entrée ou à la sortie de l'église, et qui quelquefois l'accompagnait, lui adressa à peu près les mêmes questions que Madame Voisard, et dans une forme équivoque aussi, où il y avait tout et où il n'y avait rien. Que voulait celle-là qui n'avait point de charmant jeune homme à mettre en avant? N'était-ce pas bizarre que ces femmes fussent toujours à la questionner sur son oncle? Si ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il disait, ce qu'il était, les intéressait si vivement, pourquoi ne s'adressait-elle pas à lui directement? Elles étaient ses amies depuis des années et le connaissaient mieux qu'elles ne pouvaient le connaître elles-mêmes, qui n'étaient à Saint-Maclou que depuis quelques mois. Son cousin n'était pas si affectueux et si tendre que leur amitié en pût être jalouse. Ah, comme elle était plus tranquille dans son isolement, quand personne ne s'occupait d'elle et qu'elle pouvait du matin au soir penser à Paulin librement, ne vivre que pour lui, être à lui tout entière. Après le dîner chez le médecin, il y en avait eu un chez le notaire, puis un autre chez le pharmacien, puis un autre ailleurs, car maintenant, c'était l'habitude qu'on l'invitât avec son cousin, et partout, elle retrouvait ces curieuses qui l'observaient quand elle ne la questionnait point. Maintenant, elle ne savait plus jamais à l'avance si, le dimanche, elle serait libre d'aller dîner avec Paulin, car il suffisait que Madame Voisard lui fît dire qu'elle la prendrait après la messe pour qu'elle fût obligée de refuser l'invitation de Madame Moreau. Ce n'est pas son cousin qui aurait toléré qu'au plaisir de se promener dans les rues du village ou sur la grève avec la femme de son ami Voisin, elle préféra celui d'aller dîner avec la mère d'un de ses employés. Jamais ses dîners à la chaumière de la cave de Criquefleur ne lui avaient été plus chers. Quand Paulin lui disait « Viendrez-vous dimanche ?» et qu'elle était obligée de répondre « Je ne sais pas », c'était pour elle un désespoir. Elle eût été si heureuse d'avoir une certitude et de vivre toute la semaine des joies du prochain dimanche. Le printemps accomplissait son œuvre de transformation et chaque fois qu'elle pouvait maintenant accompagner Madame Moreau, elle trouvait une campagne nouvelle qui était un émerveillement pour son ignorance de parisienne. Élevée à la ville, elle n'avait jamais suivi un renouveau. Les saisons étaient pour elle un changement de décor, voilà tout. On les plantait en un seul bloc, il y en avait un avec des feuilles vertes, un avec des fleurs, un avec des feuilles tabac, un sans feuilles, et cela faisait une pièce en quatre actes dans lesquels se passait l'année. Mais la transformation des bourgeons en feuilles qui se déplissent et festonnent la branche nue, mais l'éclosion des boutons en fusées de fleurs, elle n'en avait aucune idée. Que de changements d'un dimanche à l'autre! Combien, pour former le décor des feuilles vertes, il y avait d'opérations successives et lentes qu'elle n'avait même pas soupçonnées. « Comme il est long à se faire, le printemps » disait-elle. « Voudriez-vous donc qu'il fût déjà fini ?»« Je ne veux rien, ni ceci, ni cela. Mais je ne sais rien, et c'est mon ignorance qui pousse des exclamations. » Alors il était tout glorieux de se faire son maître et de parler en marchant près d'elle, tandis qu'elle fixait sur lui ses grands yeux étonnés et ravis. On dînait vite, et, aussitôt le fromage à la crème mangé, il quittait la table pour aller dans la cour à la recherche de quelques nouvelles découvertes qu'il lui avait signalées. Il y avait des jonquilles épanouies de la veille, ou bien des coucous, ou bien un nid. Tous les matins, avant de descendre s'atteler à sa tâche chez Belloc, aussitôt le soleil, il chaussait ses gros sabots jaunes et, sans peur de prendre un bain de rosée, il cherchait si, pendant la nuit, il n'avait pas éclos une fleur nouvelle dont il pourrait annoncer la trouvaille à Marichette s'il ne la cueillait pas pour la lui porter. La vache était encore à l'étable, les poules étaient enfermées dans leur poulailler, les chansons des oiseaux troublaient seules la douce sérénité du matin et, dans l'herbe ruisselante, il marchait le nez baissé, longeant la levée de terre sur laquelle les arbustes de la haie commençaient à verdir ou à se couvrir de fleurs, ce qu'on appelle en Normandie la masse du fossé. Quelle affaire quand il avait trouvé ! À la façon dont il portait la tête en entrant au bureau, elle devinait qu'il arrivait avec une bonne nouvelle. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demandait-elle, aussitôt qu'ils pouvaient échanger quelques paroles. Il disait ce qu'il y avait, et c'était des « ah !» et des « oh !» avec de tendres regards. Si Victor les entendait, il haussait les épaules d'un air de pitié et de mépris. « Pouvez-vous, mademoiselle, vous amuser de ces niaiseries ?» Il était jaloux de ses dîners chez Madame Moreau, qui avait créé entre Marichette et son camarade une intimité avouée qui l'exaspérait, et de plus, en paysan qu'il était, il trouvait que les herbes, les fleurs et les bêtes, ça n'avait aucun intérêt. Un matin, Paulin arriva avec un sourire plus triomphant que de coutume, mais la présence de Belloc retarda la question de Marichette. Il fallut attendre. « Qu'est-ce qu'il y a ?»«
Un nid. »«
Un nid ? Comment est-il ? » ?»«
C'est un nid de merle. »
« Cela ne me dit rien. En fait de nid, je n'ai vu que les paniers qu'on dispose dans les cages à serins. » Il expliqua ce qu'était un nid de merle et même il le dessina. « C'est demain dimanche, vous verrez. »«
Si Madame Voisin me laisse libre. »
Comme ce dimanche-là, le froid avait repris, avec cette brusquerie et cette dureté qui fait du printemps sur ses côtes la saison la plus fantasque, aujourd'hui été, demain hiver, Madame Voisard n'eut pas l'idée de se promener par les rues de la ville couvertes de neige fondue et Marichette put accompagner Madame Moreau. Au milieu de la côte, elle fut reprise dans une tourmente de neige qui les aveuglait et les glaçait. « Heureusement que Paulin nous aura fait une bonne fouée, » dit Madame Moreau. Bien que cette bonne fouée flambât dans l'âtre, Marichette, avant de se mettre à table, voulut voir le nid de merle. Et avec Paulin qui la précédait, elle courut au fond de la cour couverte de neige. Avant d'arriver à la haie où le nid se trouvait, dans une cépée de charme, Paulin s'arrêta et prenant Marichette par la main, il la conduisit doucement, sans parler, jusqu'à un endroit d'où l'on apercevait le nid, la cépée étant sur la pente rapide d'un terrain en contrebas. Cependant, Marichette fut assez longtemps sans le découvrir. Mais comme elle suivait la direction que lui indiquait le doigt de Paulin, elle reçut tout à coup un rayon noir. C'était la femelle qui, posée sur son nid, au milieu des rameaux nus blancs de neige, la regardait de son œil inquiet. Sur ses ailes étendues, les grains de grésil qui n'avaient pas encore fondu la poudraient à frimas. Au milieu de la semaine, elle le vit arriver portant un petit panier, et comme Belloc était déjà sorti, elle put de suite lâcher la bride à sa curiosité.
« Qu'est-ce qu'il y a ?»
Au lieu de répondre, il leva le couvercle de son panier. Il était plein de petites boules ovoïdes de couleur grise ou jaune, percées de trous qui exhalaient une odeur pénétrante.
« Oh, des éponges » dit-elle.
Il lui expliqua que c'était des morilles et ce qu'étaient les morilles en lui promettant qu'elle en trouverait elle-même le dimanche suivant. Mais le dimanche suivant, elle fut prise par Madame Voisard et ce fut 15 jours seulement après la visite au nid de merle qu'elle put aller cueillir des morilles. Pendant cette quinzaine, le printemps s'était franchement établi et si une neige blanche couvrait encore l'herbe plus longue et plus verte, c'était celle que la brise tiède faisait tomber des pommiers en pleine floraison. Toutes les fleurs étaient déplissées, tous les bourgeons s'étaient ouverts, les herbages et les fossés du chemin n'étaient qu'un tapis de fleurs baignés dans une chaude lumière.
« C'est aujourd'hui qu'il fait bon se promener, » dit Madame Moreau après le dîner. « La terre est en amour. »
Marichette, qui ne connaissait pas cette locution de paysan, détourna la tête avec confusion. Mais lorsqu'en sortant elle mit sa main dans celle de Paulin, celui-ci la sentit toute chaude et toute vibrante.